Alors, bienvenue dans le cours Esprit et en vérité. Nous sommes le 7 avril pour l'enregistrement vidéo et on entreprend la leçon 4. Donc, on va aller ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre à connaître davantage notre Seigneur Jésus, à comprendre davantage l'adoration, Seigneur. Tout ce que tu es venu transformer dans cette adoration, dans notre manière de t'approcher, de te célébrer, d'entrer en relation avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu as accompli, Seigneur, la loi. On te demande, Père, de venir nous faire grandir ce matin et que ce qu'on apprend, ça ne soit pas simplement de la connaissance, Seigneur, mais que ça vienne se traduire à tous les jours de la semaine dans notre confiance à s'approcher de toi, dans notre assurance à venir dans ta présence, dans l'émerveillement qu'on expérimente devant toi, Seigneur Jésus. C'est dans ton précieux nom qu'on prie. Amen. Amen. Alors, on est dans le Nouveau Testament, puis on est en train d'étudier, dans le fond, l'adoration à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ, puisque ce que Jésus a fait, en quoi ça vient transformer l'adoration dans l'ensemble de la Bible. Si vous avez vos feuilles de notes, on les trouve à l'arrière aussi, puis vous pouvez les recevoir par courriel. Donc, dans la leçon 4, juste un petit récapitulatif, parce qu'on va faire un peu de millage sur ça ce matin. Quatre notions présentes dans l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre l'adoration dans l'Ancien Testament. Puis on va voir comment ça évolue lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, spécialement parce que ce matin, on va parler de l'Alliance. Donc, il y avait la question de révélation. Selon la Bible, lorsqu'on adore, on adore un Dieu qui se fait connaître à nous. On n'a pas à imaginer Dieu, on n'a pas à deviner qui est Dieu, c'est lui qui se fait connaître à nous. La notion de l'idée de révélation qui vient de Dieu est fondamentale dans la Bible lorsqu'on pense à l'adoration. Ensuite de ça, il y a cette idée de rédemption. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui va se racheter un peuple. Dans les faits, Dieu crée les êtres avec qui il va être en relation et il crée un peuple qui va l'adorer, qui va entrer dans cette relation-là d'amour avec lui qu'on qualifie d'adoration. Donc, ils sont rachetés, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu se forme un peuple. C'est un thème qui va revenir aussi dans le Nouveau Testament. Ensuite de ça, ce peuple-là, il va le faire entrer dans une alliance. C'est un élément fondamental de la compréhension de l'adoration dans l'Ancien Testament. Il y a une alliance qui est contractée entre Dieu et son peuple qu'il a racheté. Puis, toute la qualité de la relation du peuple d'Israël avec Dieu dépend fondamentalement du respect qu'ils vont avoir envers leur alliance avec Dieu. Est-ce que le peuple d'Israël honore l'alliance? Tu veux savoir si tu es en train de plaire à Dieu comme adorateur? Est-ce que tu es en train d'honorer l'alliance ou non? Puis on va parler de la nouvelle alliance ce matin ensemble. Et ensuite de ça, bien, une des manières que ça va se traduire, le fait que tu honores cette alliance-là, c'est que tu as une nouvelle vocation. Ta vie est appelée à quelque chose de différent des gens qui ne sont pas entrés dans une alliance avec Dieu. Par le fait que tu entres dans une alliance avec Dieu, ta vie est appelée à être vécue autrement. C'est aussi un thème qui revient dans le Nouveau Testament. Donc, ces quatre thèmes-là qui sont présents dans l'Ancien Testament, qui aident vraiment à comprendre l'idée d'adoration, vont être présents dans le Nouveau Testament aussi. Je vais juste éviter de me répéter. Et puis, on avait mentionné, juste avant de se tourner vers le Nouveau Testament, on avait mentionné qu'il y avait trois, au niveau de la terminologie, il y avait trois notions qui étaient présentes aussi dans l'Ancien Testament. Au niveau du langage, il y avait cette idée d'un hommage, d'une soumission qui s'exprime particulièrement avec le verbe de se prosterner devant Dieu, qui est un acte d'humilité. Puis qui peut parler aussi d'une attitude de cœur, où je viens me prosterner devant Dieu. Donc, les Juifs, dans l'Ancien Testament, se prosternaient devant Dieu et cherchaient à avoir cette attitude-là où ils se prosternaient dans leur cœur devant Dieu. Ça, c'est au niveau du langage. Mais il y avait aussi l'idée de servir. Donc, dans l'Ancien Testament, quand tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de servir Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Le peuple d'Israël était le peuple des serviteurs de Dieu. une manière d'adorer Dieu, c'est de le servir au temple, mais le servir aussi par notre vocation. On est appelé à vivre autrement. On est appelé au service de Dieu. Ça, c'était pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Ça va être vrai dans le Nouveau Testament aussi, d'accord? Ça va revenir aussi. Et il y avait toute cette idée d'un respect, d'une révérence envers Dieu. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu que, je reviens sur la notion de service, on avait vu qu'une particularité dans le service que les Juifs vouaient à Dieu par rapport aux nations païennes autour, c'est que ça allait aussi loin que le peuple d'Israël se voyait comme des esclaves de Dieu. Puis c'est pas quelque chose de malsain, de... Ils ne s'appartiennent plus, ils appartiennent à Dieu. Puis ce langage-là, les peuples païens qui servaient leurs idoles n'auraient jamais utilisé un langage aussi humble envers leurs idoles que le peuple d'Israël le faisait envers Dieu. Puis ça va être important lorsqu'on va chercher à comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ s'est fait notre serviteur en allant sur la croix mourir pour nos péchés. Donc on arrive dans le Nouveau Testament. Puis dans le Nouveau Testament, on va voir, on a commencé déjà à voir dans la dernière leçon, un changement, le changement le plus significatif lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est que où est-ce qu'on rencontrait Dieu dans l'Ancien Testament? Juste pour voir si vous êtes avec moi. Où on rencontrait Dieu dans l'Ancien Testament, fondamentalement? Au temple, d'accord? Au temple. On pouvait prier Dieu n'importe où, mais on allait rencontrer Dieu au temple. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent dans le cours, c'est qu'on va passer d'un lieu vers une personne, qui est la personne de Jésus-Christ. D'accord? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël se rendait au temple pour rencontrer une personne, rencontrer la personne de Dieu, mais c'était dans un lieu précis. Lorsqu'on lit les quatre évangiles, spécialement dans Matthieu et puis dans Jean, on voit que ce qui nous est enseigné, c'est que ce temple-là devient en réalité, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est dans la personne de Christ qu'on va rencontrer Dieu lui-même. On passe d'un lieu vers une personne. Cette personne-là devient centrale. Donc, toute idée qui nous amènerait à mettre Jésus sur un pied d'égalité avec d'autres prophètes qui nous ont révélé Dieu, ça devient complètement farfelu pour les chrétiens. Comprenez, lorsque je parle avec quelqu'un qui croit en Mahomet ou qui croit dans d'autres prophètes, puis je suis tenté un peu par humilité de dire, bon, mais il y a peut-être que Dieu s'est fait connaître à travers d'autres. Mais s'ils ne nous font pas connaître la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est l'accomplissement du temple lui-même. Donc, il n'est pas comparable, il est incomparable avec qui que ce soit d'autre. Dans l'Ancien Testament, on allait adorer Dieu dans un lieu spécifique. Dieu avait promis, en vertu de son alliance, que ce serait toujours possible d'aller le rencontrer dans ce lieu-là. Si j'honore l'alliance, je me rends au temple, j'offre des sacrifices, je me qualifie pour m'approcher de Dieu, Dieu va toujours être là pour moi. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, le temple, c'est Jésus-Christ. Si je m'approche de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, je m'en viens rencontrer Dieu. Si j'entre dans une alliance avec Jésus-Christ, je m'en viens entrer dans une alliance avec la personne même de Dieu. Donc, il y a vraiment, ça se transforme radicalement. Fait que on a dit que lorsqu'on parlait de l'adoration dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, il y a des éléments qui sont en continuité. Il y a des éléments qui sont en discontinuité, puis il y a des éléments qui vont évoluer, qui vont changer. D'accord? Donc, par exemple, aujourd'hui, on va parler de l'Alliance. C'est une continuité. Toujours, dans la Bible, lorsque tu es en relation avec Dieu, c'est que tu as conclu une alliance avec Dieu. Dieu a traité une alliance avec toi. À travers toute la Bible, c'est constant. C'est une constante. Dieu n'est pas en relation intime avec une personne avec qui il n'a pas conclu une alliance. C'est constant, partout, à travers toute la Bible. Maintenant, lorsque j'arrive, admettons, avec la question du temple, bien, il y a des éléments de discontinuité. Par exemple, le sacrifice de Jésus-Christ rend obsolète, rend dépassé, caduque, si on peut dire, tout autre sacrifice. On a plus besoin de sacrifier des animaux. Christ est le sacrifice parfait. Tous ces sacrifices-là étaient juste une préfiguration du sacrifice de Christ. Donc, il y a une discontinuité. Ça s'arrête complètement. D'accord? Il y a d'autres choses qui vont évoluer. Ça va continuer, mais on s'en va ailleurs. Fait que, par exemple, si je disais le peuple de Dieu, on va développer ça un peu ce matin, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il entre dans l'Alliance, il y a des termes à cette Alliance-là, lorsqu'ils sont au Mont Sinaï, Dieu leur donne les termes de l'Alliance, puis dans les termes, il y a un code de conduite. Il y a des lois. Tu veux entrer dans une alliance avec Dieu, tu vas respecter certaines lois. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance, il y a encore une loi. Mais Christ va venir comme, je veux dire ça comme ça, ajuster des choses par rapport à cette loi-là. Fait qu'il y a des choses qui changent dans cette loi-là. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Une question, Gérard. Oui. Les enfants, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ah, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, c'est une bonne question. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut prier Dieu partout et en tout lieu depuis toujours. D'accord? Je pense que ce qui est significatif avec... En fait, ce qui est clair avec le temple, c'est que Dieu donne une... Comment je vais dire ça? C'est une bonne question, je vais essayer d'être le plus clair possible. Tu rencontres toujours Dieu là où Dieu se fait connaître. Si je prends l'Ancien Testament avant le temple, tu rencontres Dieu là où Dieu se fait connaître. Fait que, par exemple, dans le buisson ardent, il apparaît à Moïse. D'accord? C'est Dieu qui se fait connaître. Je suis dans un lieu saint, je m'approche de Dieu, je vais rencontrer Dieu à ce moment-là. Je peux prier Dieu en tout lieu, mais là, je vais le rencontrer, c'est lorsque lui se fait connaître. Ce qui se transforme avec le temple, c'est que Dieu dit, mais ça commence avant, là, avec le tabernacle, Dieu dit, il y a un lieu permanent maintenant, où tu vas pouvoir décider de venir me rencontrer. Donc, je pense que la nuance que je ferais entre avant ce moment-là et ça, c'est qu'en tout temps, l'être humain peut prier. En fait, pas compliqué. Même quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, puis quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ peut prier. N'importe qui peut dire, « Dieu, je pense que tu existes, puis j'ai besoin que tu te fasses connaître à moi. » Ce n'est pas un souci. Donc, je peux m'adresser à Dieu en tout lieu. Mais où est-ce que je vais aller rencontrer Dieu? J'ai goût de te dire la réponse, c'est avant le tabernacle, il n'y a pas de lieu permanent. Tu rencontres Dieu quand il se manifeste à toi. Oui, vas-y. Oui.
Et quand Abraham a construit des hôtels, quand il a offert son fils, il a construit un hôtel.
Sur une montagne, ça, tu veux dire?
Non, mais dans le bas de la montagne, lui, oui. À ce moment-là, quand il l'a fait, mais sur les hôtels qu'il construisait, puis sur les montagnes.
Oui, c'est ça. Fait que jusqu'à ce que Dieu donne la prescription de l'Alliance dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël, je cherche le bon terme, là. Il n'y a pas d'instructions précises qui sont données. Le peuple d'Israël, mettons Jacob, va rencontrer l'Éternel quand l'Éternel va décider de se faire connaître à lui. Puis là, en réponse à ça, il va élever un autel. Tu sais. Mais il n'y a pas comme une formule, tu élèves un autel, puis Dieu, c'est comme un génie, tu frottes une lampe, puis tchou, il va apparaître parce qu'on a construit un autel. Il n'y a pas de prescription claire avant ça. Et c'est la particularité de l'alliance entre l'Éternel et Israël. OK, je vais rajouter une notion, là. Puis Alex, si tu as une réponse plus intelligente, j'aimerais ça l'avoir. Mais je pense qu'on n'a pas de tech, hein? Si on avait eu le micro sans fil, je l'ai ici, peut-être qu'il est allumé, mais... Un, deux, ouais. Ça se peut que ce soit lui aussi. C'est pas un bon test. Où je m'en ai... Oui, c'est ça. Une des notions qui aide à comprendre, puis ça aide même à comprendre ce qu'on va voir ensemble ce matin. C'est une bonne question, Gérard. Quand on parle de la Bible, on parle d'une révélation progressive. OK? J'ai mentionné, selon la Bible, on adore un Dieu qui se fait connaître à nous. C'est un Dieu invisible. Il y a certaines choses qu'on peut comprendre de Dieu en regardant la nature, mais c'est très limité. Et donc, Dieu doit se faire connaître à nous pour qu'on puisse vraiment le connaître personnellement. Une expression qu'on utilise lorsqu'on parle de la Bible, on parle d'une révélation progressive. Je vais vous donner l'exemple le plus évident, c'est Jésus. Donc, si j'essaie de comprendre c'est quoi la notion de pardon des péchés puis de sacrifice, bien, entre l'Ancien Testament où, par exemple, Abraham puis Isaac vont offrir un sacrifice, puis après ça, le tabernacle, puis le temple, puis j'arrive à Jésus, là, c'est vraiment clair avec Jésus. Donc, ça devient progressivement de plus en plus clair. Lorsqu'on parle de la Bible, on parle d'une révélation progressive. Il y a des choses qui progressent dans la révélation. Ça devient de plus en plus clair. Je pense qu'une partie de la réponse à ta question, Gérard, se situe là. C'est que jusqu'à l'alliance entre Dieu et son peuple, alliance formelle au mont Sinaï, il y a peu encore de révélation qui est faite sur comment on approche Dieu. Lorsqu'on arrive là, oh là, il y a comme un gros blitz d'informations qui nous est donné parce que le peuple de Dieu est formellement constitué avec une alliance formelle. Avant, il y a des alliances. Il y a une alliance entre Abraham puis Dieu. Il y a une alliance entre Adam puis Dieu. Donc, il y a déjà des alliances qui sont là. Mais j'ai une alliance formelle ici pour le peuple avec énormément de révélations. Fait qu'avant ça, comment on fait pour aller rencontrer Dieu? On le prie en tout lieu, mais on le rencontre quand il décide de se faire connaître à nous, souvent sur des montagnes, comme tu dis, pas seulement sur des montagnes. Et comment on répond? Bien là, on commence à avoir des indices, ils vont construire un hôtel, des choses comme ça. As-tu un autre élément que tu penses, Alex? Définitivement. Oui, ça aide, merci.
Et puis lorsqu'ils sont chassés du jardin, ils sont chassés de la présence de Dieu en raison du péché, et ça prend, comme tu dis, une révélation que Dieu vienne, fasse grâce, vienne se faire connaître, et c'est progressif parce qu'on le voit qu'il continue d'avoir une relation avec Adam et Ève, mais spontanée, après ça, Noé, avec, puis Noé va offrir un sacrifice au moment où Dieu se révèle, mais c'est progressif juste Sinaï, dans un sens avec Isaac, Jacob, et on ne voit pas, on voit leur histoire, on ne voit pas beaucoup leur relation avec Dieu, sauf dans les moments où Dieu se révèle à eux.
Ouais.
Jusqu'au moment où l'alliance est établie, là, il y a vraiment plus formalisé. Ça va
dans tout le temps. Oui, excellent. Oui, je vais ajouter.
C'est un rétablissement un peu de la relation qu'il y avait en Éden qui est progressive.
Oui, oui. John, c'est-tu possible de me donner du son sur ça puis que je puisse m'en servir tantôt pour d'autres interventions? Merci.
Là, je ne sais pas si je t'aide. Oui. Okay.
Merci. Ah, tu enregistrais déjà la salle? Donc, tu as le commentaire d'Alex aussi. Oh, alléluia. Merci. Merci, monsieur le magicien technologique. Donc, vous avez compris la réponse d'Alex? Je pense que l'élément qu'Alexandre apporte, qui est super, super important, que je n'avais pas pensé, c'est la notion du Jardin d'Éden. Donc, dans le Jardin d'Éden, comment on rencontrait Dieu? Dieu. Il est avec nous, on est en relation parfaite. Il venait les rencontrer tous les jours, c'est ça qu'il nous a dit, avec eux régulièrement. Après ça, ça s'est coupé. Puis on va voir un rétablissement d'une possibilité d'approcher Dieu à souhait, si je peux dire, juste avec l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Là, il y a quelque chose qui est réinstitué. Puis en réalité, on va retrouver la permanence de la communion seulement en Jésus. En Jésus, je retrouve, je suis beaucoup plus près d'Éden, mais ça, on va y venir. D'accord? Oui? Vas-y.
On le voit aussi après, lorsque Jérusalem est détruite, amenée en captivité à Babylone, les Juifs, le peuple de Dieu continue de prier Dieu, mais il n'y a plus d'endroit pour rencontrer Dieu.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est un autre bon exemple, justement. Lorsqu'ils n'ont pas le temple, ils ont les synagogues. Dans les synagogues, qu'est-ce qu'ils font? Dans les synagogues, ben, ils font un peu ce qu'on fait ici, moins Jésus. Donc, ils font quoi? Ils lisent la parole, puis il y a des enseignants qui commentent la parole, puis qui expliquent la parole. Ils font des prières. Fait qu'on pourrait dire qu'ils rencontrent Dieu, mais ils ne rencontrent pas Dieu de la même manière que dans le temple où Dieu promet sa présence puis son écoute. D'accord? Donc, on n'a pas ça, là. On n'a plus le temple. On va le retrouver avec le temple qui est reconstruit, puis après ça, parfaitement en Jésus-Christ. C'est bon? Merci. Excellent. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ça va? C'est intéressant. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on regarde ensemble? On a dit qu'on a vu jusqu'à présent qu'on passe du temple, un lieu, vers une personne, la personne de Christ, puis on va développer un peu plus ce matin la notion d'une nouvelle alliance. Maintenant, dans notre adoration, un élément qui va se transformer, c'est qu'il va y avoir une nouvelle alliance qui va être contractée entre Dieu et les hommes ou entre Dieu et son peuple. Si vous allez au bas de la page, je vais lire une longue citation. « La théologie biblique associe étroitement le salut, le temple, l'alliance et l'adoration. Lorsque les évangiles indiquent que le temple est remplacé par la personne et l'œuvre de Jésus et que le salut s'accomplit en sa mort et en sa résurrection, ils supposent l'inauguration d'une nouvelle alliance. Jésus n'en parle ouvertement que lors de l'institution de la scène, qui est le dernier repas, la dernière Pâque que Jésus va célébrer avec ses disciples. C'est juste là qu'on a vraiment quelque chose de plus explicite de la part de Jésus. Il parle de la nouvelle alliance conclue par mon sang. Ses paroles annoncent, entre autres, l'accomplissement des promesses de Jérémie dans Jérémie 31. Fait que je vais prendre le temps de lire ce passage-là. Donc, il avait été annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes qu'une nouvelle alliance viendrait. C'était déjà annoncé. Une alliance qui serait supérieure à l'ancienne alliance, à l'alliance de Moïse. Ça avait déjà été annoncé. Et donc, lorsqu'on veut comprendre l'adoration dans le Nouveau Testament, un des éléments importants, c'est que je vais découvrir que Jésus m'annonce que cette nouvelle alliance-là est arrivée maintenant. Donc, je vous lis les versets 31 à 34, Jérémie 31, 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Donc, l'allusion est super claire. Il est en train de parler d'une alliance qui va être nouvelle par rapport à l'alliance conclue avec Moïse une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. On sait de quoi il parle. Je l'écrirai, je m'excuse, je suis rendu un petit peu plus loin, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Encore une fois, la notion de maître, serviteur, ils ont violé cette alliance-là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puis là, on a déjà des indices de choses qui vont changer dans cette nouvelle alliance-là. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, annonce qu'il y a une nouvelle alliance qui va venir bientôt, on ne sait pas quand. Cette alliance-là va être supérieure à l'ancienne alliance. Elle va être supérieure en quoi? Dieu va venir inscrire et va venir mettre la loi, sa loi, dans le cœur. Donc, il fait une comparaison. Il dit, on avait une ancienne alliance, le peuple d'Israël a violé cette alliance-là. Ils ont brisé l'alliance qu'on avait ensemble. Maintenant, je n'ai pas abandonné Israël. Il y a une nouvelle alliance qui s'en vient. Elle va être supérieure parce que je vais inscrire ma loi dans leur cœur. C'est très obscur, là, encore. Nous, on est après Jésus. On a tout le Nouveau Testament. On comprend le rôle de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit Saint, tout ça. Mais eux autres, ils n'ont pas ça. C'est vraiment drôle là, parce qu'on est là-dedans ce matin dans l'exposé biblique. On est dans 1 Pierre avec toute Pierre qui dit que les prophètes cherchaient à comprendre les prophéties qui leur étaient données. Ils essayaient de saisir. C'est comme il y avait des choses extraordinaires qui s'en venaient, mais comment ça va se passer? Fait que j'imagine Jérémie qui reçoit cette révélation-là, puis qui après ça dit, « Oh, mais comment ça va se passer, cette affaire-là? Comment ça va s'accomplir? » Et la loi va être, cette alliance-là va être supérieure parce que, dans le fond, ils n'auront plus d'enseignants de la même manière que dans l'Ancien Testament. Nous, on sait, à cause de la Nouvelle Alliance, à cause de la venue de l'Esprit, qu'on a ce pédagogue en nous-mêmes, l'Esprit Saint habitant en nous, nous instruisant. D'accord? Et donc, il est question, Jésus aborde l'idée que ceux qui vont adorer dans le Nouveau Testament vont contracter, entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et que cette alliance-là va être inaugurée, scellée par son sang. Christ parle de ça plus explicitement au moment où il va célébrer la dernière Pâque. Il est en train de s'associer, il est en train de faire une association très explicite avec la première alliance, c'est-à-dire avec l'ancienne alliance qui a été scellée par les sacrifices, par le sang versé. La nouvelle alliance va être scellée par le sacrifice, par le sang versé. Son propre sang, lui, est en train de se présenter lui-même comme l'agneau à ce moment-là, qui va nous permettre d'entrer dans cette nouvelle alliance. L'adoration de Jésus. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que je ne vais pas rester longtemps sur ça, mais un des éléments qu'on voit, c'est que Christ s'est qualifié lui-même, si je peux dire, comme l'adorateur parfait. Lui-même, de son vivant, a observé parfaitement la loi. Lui-même a été le peuple d'Israël parfait, le Fils de Dieu qui obéit à la loi. Puis ça, c'était un élément important qu'il préparait à devenir un sacrifice, mais qui va aussi être notre modèle à nous. C'est un des éléments qui est important. J'ai mentionné ça, je pense, il y a deux semaines. Mais quand, comme chrétien, on vit de la difficulté dans notre adoration puis dans notre relation avec Dieu, on doit accepter par la foi l'idée que nous sommes appelés à être des adorateurs du Père comme Jésus-Christ a été un adorateur du Père. Ce que Jésus-Christ a vécu avec son Père, il nous promet à nous qu'on va le vivre avec le Père, à travers l'Esprit-Saint. Donc, c'est un des éléments que je voulais juste mentionner, c'est que lorsqu'on cherche, nous, comment on adore Dieu, comment on s'approche de Dieu, une des manières de le découvrir, c'est de regarder quelle était la relation que Jésus avait avec son Père. Puis, lorsque, comme chrétien, on se rabat rapidement sur l'idée que, ouais, mais moi, je ne suis pas Jésus. Un, on le sait que tu n'es pas Jésus. Tout le monde le sait. Jésus sait que tu n'es pas Jésus. C'est pour ça qu'on a la grâce. Jésus n'avait pas besoin d'être guérassier. Il n'a pas besoin que ses péchés soient pardonnés. Mais je pense qu'on manque, on fait une grave erreur lorsqu'on se sert de cette réponse-là. Moi, je ne suis pas Jésus. Pour ne pas chercher à vivre ce que Christ a vécu avec son Père. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Est-ce que ça se tient? Alors, de ce côté-ci de la mort, je vais broncher de plusieurs manières. Il va m'arriver de pécher, ça ne fait pas de doute. C'est correct, ça fait partie de la game. J'attends mon corps glorifié pour que le vieil homme ne fasse plus jamais d'écho dans mon cœur et qu'il ne m'amène pas à pécher. Donc, de ce côté-ci de la mort, je vais broncher de plusieurs manières. Je vais continuer à pécher, il va y avoir des péchés qui vont survenir, ça va m'arriver. Mais de me voir juste comme quelqu'un, ouais, mais moi je ne suis pas Jésus. Le problème, honnêtement, je pense qu'il y aurait vraiment un cas, une défense à faire pour dire que j'attriste probablement l'esprit en faisant une déclaration semblable si je me sers de ça pour me justifier de ne pas poursuivre la plénitude de l'esprit. Je m'appuie sur la grâce de Dieu, puis je dis, Seigneur, comment est-ce qu'il disait ça? Il disait, par la grâce de Dieu, je ne suis plus celui que j'étais, je ne suis pas celui que je serai, mais par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis. Fait que, oui, j'ai péché hier, mais je suis entièrement pardonné. Puis ce que je poursuis aujourd'hui, c'est la plénitude de l'Esprit. Puis, par la grâce de Dieu, je vais être plus près de lui aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vais être attentif à l'Esprit Saint. Puis je vais pas me donner des excuses. Je peux être déçu de moi-même, puis assumer entièrement mes combats puis mes difficultés. Mais ces choses-là doivent me conduire à la croix. Je m'en vais à la croix puis je dis, Seigneur, c'est tellement juste par ta grâce. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire, puis honnêtement, on dirait plus les années passent, plus c'est vrai dans mon cœur. À chaque année où le Seigneur me permet de servir, de commencer une nouvelle année puis être encore en train de servir comme pasteur, je dis au Seigneur, « Ah, c'est surprenant. Je pense que tu veux encore te servir de moi cette année. » Et c'est juste pour vous illustrer le fait que ça m'émerveille que Dieu veuille se servir de moi. Je suis toujours pas digne qu'il se serve de moi. Après 20-quelques années de ministère pastoral, je me sens pas plus digne. On dirait plus j'avance, moins je me sens digne de le servir. Mais qu'est-ce qui fait que ma passion ne va pas en diminuant, elle va en grandissant? Qu'est-ce qui fait que ma foi ne va pas en diminuant, mais elle va en grandissant? C'est que je vais me reposer dans l'Évangile, puis je dis, « OK, maintenant, Seigneur. » Et je prie ça régulièrement. Presque tous les matins, je dis, « Seigneur, par ta grâce, je te prie de me remplir de ton Saint-Esprit comme t'as rempli ton Fils parfait Jésus-Christ. » Parce que ton Fils parfait Jésus-Christ a offert un sacrifice parfait, je te demande de me remplir de la même puissance qu'il y avait en ton Fils Jésus-Christ dans son ministère terrestre. Parce que c'est ça la promesse de la Nouvelle Alliance. C'est ce qu'on vient de lire ici dans Jérémie 31. D'accord? Ils vont avoir la loi de Dieu dans leur cœur. J'ai fait une longue parenthèse, mais je pense que c'est important parce que je pense que je peux attrister l'esprit. C'est une mauvaise compréhension de la grâce, quelque part, comme de se servir de ça pour ne pas aller se reposer dans l'Évangile puis croire que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Alors, Jésus est la loi de Moïse, puis c'est important, on va essayer de compléter cet élément-là ce matin. Jésus n'est pas venu abolir la loi, c'est clair, hein? Il l'a dit explicitement, il est venu l'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, Jésus ne s'oppose jamais à la loi de Moïse. Des fois, il va s'opposer explicitement à des lois que les hommes ont écrites comme pensant clarifier la loi de Moïse, ou des fois, ils se sont mis des... le légalisme, tu sais, le légalisme, c'est relativement simple. Dieu dit, ça, c'est la limite, ça, c'est la sainteté, puis ça, c'est le péché. Fait que moi, je dis, ben, je vais mettre la limite ici, juste pour être sûr de m'éloigner de cette limite-là. C'est une des manières simplistes, mais quand même claire, de définir le légalisme. Fait que Dieu dit, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de t'enivrer de vin. Fait que moi, je vais donner une nouvelle prescription, tu n'as pas le droit de boire du vin. Ah, c'est intéressant. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que tu ne peux pas boire de vin, mais elle dit de ne pas s'enivrer de vin, ça c'est clair. Fait que moi, tu sais, je vais me protéger de m'enivrer de vin. Si je n'en bois jamais, je vais me protéger de ça. Fait que des fois, Jésus va s'opposer aux lois que les docteurs de la loi ont écrites pensant bonifier la loi de Dieu ou clarifier la loi de Dieu. Ça, c'est un volet, mais on ne va pas parler surtout de ça ce matin. Parfois, Jésus vient comme clarifier la loi de Moïse. Parfois, Jésus vient puis il plonge au cœur de la loi de Moïse. Fait que là, on va voir qu'il y a des choses, il ne s'oppose jamais, mais il y a des choses qu'il vient accomplir, puis il y a des choses même où il vient apporter une nouvelle dimension, si on pourrait dire. Au bas de la page 3, je dis, l'attitude de Jésus à l'égard de la loi de Moïse est un sujet qui demande une étude sérieuse, mais nous nous devons d'observer certaines déclarations de Jésus afin de voir la nouvelle réalité qu'il annonce, pour ne pas dire les nouvelles conditions d'une nouvelle alliance. Alors, si vous allez au haut de la page 4, Jésus respecte le temple lui-même, participe au repas de la Pâque en bon adorateur juif, mais il adresse à plusieurs reprises des reproches aux spécialistes de la loi quant à leur interprétation et leur application de la loi. Non seulement critique-t-il leur interprétation de la loi, mais ces critiques vont au-delà pour questionner même la permanence de la loi ou de certains aspects de la loi. Donc, il ne s'oppose pas à la loi, mais on peut voir qu'il n'est pas non plus lié par la loi. Christ, bon, on le sait, c'est la parole de Dieu, donc c'est lui-même qui a prescrit la loi. Donc, il n'est pas lié par la loi. Nous dirons généralement que Jésus est venu accomplir la loi. Puis là, on va donner un exemple avec toute la notion d'impureté. Prenons comme exemple la question de la pureté et de l'impureté. Dans toute cette discussion avec les pharisiens sur les rites de purification qu'on trouve dans Marc 7, dans Matthieu 15, nous pouvons voir que Jésus ne conteste jamais la loi de l'Ancien Testament. Jésus s'en prend aux lois supplémentaires que les légalistes ont développées. Mais nous pouvons tout de même observer que Jésus déplace subtilement la question de la pureté sur un autre plan. C'est comme s'il l'amène à une autre échelle, sur un autre niveau. Regardez dans Marc 7, versets 14 à 16. « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui-même, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, pour entendre, qu'il entende. » Puis là, on peut penser à Pierre avec la vision de la nappe, puis il y a des animaux impurs, rituellement impurs. Puis là, dans la vision, il lui est dit, « Mange, mange de tout. » Puis là, Pierre, il dit, « Non, non, c'est impur. » D'accord? Maintenant, ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train quand même d'apporter une nouvelle nuance. Il dit, « Il y avait une impureté rituelle, mais cette impureté-là, ce n'est pas quelque chose qui souille vraiment l'intérieur de l'homme. C'est le péché dans le cœur de l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui se passe dans notre cœur qui vient nous souiller. C'est ce qui va sortir de mon cœur, en fait, qui est le péché. Ça ne vient pas de l'extérieur de ce que je suis en train de manger. Aux yeux de Dieu, la véritable pureté ne peut s'obtenir par l'observance scrupuleuse des lois culturelles, des lois autour du culte, autour du service du culte. En effet, ces rituels sont incapables de traiter l'impureté intérieure, celle d'un cœur rebelle et corrompu. Autrement, dans l'Ancien Testament, les petits prophètes parlent de ces moments où le peuple d'Israël continue à faire tous leurs rituels, puis pourtant ils disent « Ce que vous faites là, ça me pue au nez. Vous allez offrir vos offrandes. Si ça purifiait, il aurait été pur. » Non, parce qu'ils le faisaient avec un cœur impur, avec des mauvaises intentions. Donc Dieu dit « Ça ne donne absolument rien, ce que vous faites là. » Les prescriptions de l'alliance mosaïque, l'alliance contractée avec Moïse, concernant la purification rituelle, étaient le signe d'un besoin de purification beaucoup plus profond et plus complet. Donc, ça pointait. C'est pas seulement les sacrifices, c'est toutes les lois aussi qui pointaient vers quelque chose de plus profond. L'enseignement de Jésus soulève donc la question « Comment obtenir semblable purification ?» Le contexte immédiat ne fournit aucune réponse, mais son enseignement sur la signification de sa mort apporte la véritable solution au problème. Donc, dans le ministère de Jésus, Jésus construit une tension qui va se résoudre à son sacrifice, puis qu'on va comprendre comme il faut après en recevant l'Esprit-Saint. Quand je dis qu'il construit une tension, c'est que Jésus s'oppose pas seulement aux pharisiens dans leur mauvaise compréhension de la loi, il dit aussi qu'il y a plus que ce qu'on pouvait comprendre dans la loi. Il y a plus que le temple. Fait qu'il n'est pas en train de dire « le temple n'est pas bon ». Mais il est en train de dire, par exemple, lorsqu'il va dire « il y a ici plus que le temple ». De quoi il est en train de parler, voyez-vous? Donc, il y a une tension pendant tout son ministère où il enseigne qui va se résoudre au moment où il va mourir sur la croix, parce que ça annonçait ça avec sa résurrection, et qu'on va comprendre vraiment par la suite avec l'Esprit-Saint qui va être donné aux apôtres, qui va être donné aux disciples. Puis là, les apôtres vont comprendre les choses qu'ils n'avaient pas compris sous le ministère de Jésus. Est-ce que ça se tient jusque-là? Que quelqu'un a une question de compréhension, juste parce que je veux être sûr de couvrir toute ma matière. C'est une question, Gérard?
Et il y a quelque part, ce que je voulais, c'est que vous puissiez prendre soin des pauvres, des orphelins et des veuves. Et en fait, c'est un cœur contrit que le Seigneur rencontre, veut rencontrer.
Oui.
Et c'est là qu'il, dans l'amour, en aimant Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme soi-même, on rencontre toute la loi et les prophètes.
Oui. Alors, c'est vrai, C'est vrai ce que tu dis. Je vais apporter cette nuance-là qui est quand même vraiment importante. C'est que tout l'amour que je pourrais avoir pour les pauvres, pour mon prochain, pour n'importe qui, sans le sacrifice de Jésus, c'est caduque. C'est pas admissible. Donc, dans l'Ancien Testament, ce qui qualifiait, ce qui rendait possible pour le peuple d'Israël d'avoir une vocation vers Dieu, c'était les sacrifices. Ça prenait l'alliance. Il fallait que l'alliance soit scellée. Donc, oui, l'amour accomplit toute la loi, c'est vrai, mais cela est rendu possible seulement parce que j'ai été racheté premièrement. Parce qu'avant ça, ce serait impossible. Donc, c'est quelque chose d'important parce que lorsqu'on dialogue avec les gens, puis vous savez, une des répliques qu'on entend le plus souvent actuellement, c'est, en tout cas au Québec, c'est, dans le fond, ça revient tout au même. C'est la loi de l'amour. Mais il y a une méprise énorme. C'est que tout ce que j'appelle, moi, de l'amour envers Dieu puis envers mon prochain, si ça n'a pas été purifié, si je n'ai pas été pardonné, purifié à cause du sacrifice de Jésus-Christ, c'est inadmissible devant Dieu. Ce n'est pas admissible. Donc, l'amour que le chrétien va déployer envers Dieu, envers son prochain, c'est un acte de reconnaissance. C'est toujours en reconnaissance pour l'amour que Dieu nous a déployé à travers Jésus-Christ. Autrement, mais ça revient à toutes les religions, c'est l'amour qu'on va déployer envers les gens, c'est une forme de qualification qu'on est en train de faire. Je suis en train de me qualifier par mes bonnes œuvres pour être admissible devant Dieu, puis Dieu me dit ça, c'est totalement impossible. Donc l'amour que moi je veux manifester à Dieu, c'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau, l'amour que je veux manifester à Dieu puis à mon prochain, c'est toujours une œuvre d'action de grâce que je suis en train de faire, pour l'amour que Dieu m'a manifesté. Ça va? Au bas de la page 4, reste à étudier le comment, le pourquoi de tels changements. Nous nous contenterons ici de noter que les critiques de Jésus à l'encontre des traditions des scribes et de leur attitude à l'égard de la loi de Dieu révèlent la nécessité d'un changement de cœur. Paul va dire que la loi est un pédagogue, puis la loi sans l'Esprit de Dieu, je vais le dire comme ceci, la loi de Dieu sans l'Esprit de Dieu, c'est une pierre d'achoppement pour l'homme. Est-ce que ça vous êtes d'accord si je dis ça? La loi de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, c'est une pierre d'achoppement pour l'homme. Ça devient un outil de qualification. Ça devient une manière de m'élever au-dessus des autres, de montrer que je suis plus spirituel. D'accord? Et donc, la loi était là comme pédagogue pour montrer que le peuple d'Israël n'y arrivait pas. Même si Dieu avait été gracieux et avait traité une alliance avec eux, il n'y arriverait pas. Je vais au haut de la page 5. Prophétisant avant la chute de Jérusalem de 587 avant Jésus-Christ et l'exil babylonien qui s'ensuivit, Jérémie savait que son peuple avait irrémédiablement rompu l'alliance contractée par Dieu avec leur père et que par conséquent, Dieu causerait sa ruine. Dieu allait honorer son alliance en châtiant sévèrement son peuple. C'était ça les termes de l'alliance. Dieu avait été l'instigateur de l'ancienne alliance. Lui seul pouvait la rétablir dans sa grâce souveraine. Donc, ce qu'il annonce, c'est moi qui vous avais offert cette alliance-là. Vous avez brisé l'alliance par vos péchés. Vous avez violé l'alliance. Maintenant, conformément à la révélation dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui va encore être l'initiateur d'une nouvelle alliance supérieure qui va venir présenter au peuple d'Israël, mais à travers le peuple d'Israël, à tous les élus de toutes les nations, qui est aussi ce nouvel Israël-là. Lui seul pouvait la rétablir dans sa grâce souveraine. Le moment viendrait où il réunirait son peuple. Il pardonnerait leurs fautes et ne tiendrait plus compte de leurs péchés. Il placerait sa loi au plus profond d'eux-mêmes et leur permettrait à tous, des plus petits aux plus grands, de le connaître en leur donnant le désir et le pouvoir de faire sa volonté et d'être son peuple. Le langage de Jérémie met l'accent sur la nouveauté de cette alliance malgré sa continuité évidente avec le passé. OK, donc c'est important, c'est une nouvelle alliance. On est en continuité, mais il y a une transformation. L'ancienne alliance pointait vers une plus grande qui allait venir plus tard. Et on entre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Le langage de Jérémie met l'accent sur la nouveauté de cette alliance, malgré sa continuité évidente avec le passé. Dieu seul pouvait créer les conditions nécessaires au rétablissement de sa relation avec un peuple aussi rebelle. Fait que, un autre exemple où il y a une transformation, où Jésus vient comme commenter la loi de Dieu, puis il dit, attendez un peu, il y a plus que ça, ça va être le sabbat, par exemple. Dans les débats que Jésus aura avec ses adversaires concernant le sabbat, on voit à nouveau que Jésus communique un message qui va au-delà. C'est plus qu'une critique de l'utilisation du sabbat. Vous savez, il y avait des règles qui devenaient profondément ridicules. Donc, est-ce que je peux manger l'œuf qu'une poule a pondu le jour du sabbat parce qu'elle a travaillé pour pondre son œuf? Puis peut-être que je ne pourrais pas manger cet œuf-là. Tu sais, bon, fait que il se perdait dans tout ça. Mais la critique de Jésus va au-delà de ça. C'est au-delà du légalisme. Jésus nous amène sur la question de son identité à lui, de sa personne. On lit dans Matthieu 12, versets 6 à 8. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Christ est plus que le temple, Christ est maître du sabbat. Donc, il nous dit, il n'est pas en train de rejeter le sabbat, mais il dit le sabbat pointait vers quelque chose d'autre. C'est pour ça que nous, on dit, Christ est notre sabbat. C'est lui qui est notre repos. C'est là qu'on va se reposer. Je vais me reposer de mes œuvres à moi en me reposant dans son œuvre à lui à la croix. Je n'essaie plus de faire des œuvres pour gagner mon ciel. Je vais me reposer de mes œuvres. Mes œuvres ne valent rien. Je vais me reposer dans l'œuvre de Christ. Christ est mon sabbat. C'est lui qui est mon repos. Je sais que je peux aller me reposer en Dieu à cause de Jésus-Christ. Alors, Jésus ne vient pas abolir la loi, il vient l'accomplir. Puis je pense que je vais m'arrêter ici, juste pour ne pas zigouiller la dernière section. On va compléter ça la semaine prochaine. C'est bon? Mais on est en train de découvrir ensemble tranquillement la nouvelle alliance. Donc, il y a une continuité. Il y avait une alliance dans l'Ancien Testament. Comment on fait pour adorer Dieu? Il faut rentrer dans cette alliance-là. Dans le Nouveau Testament, il faut entrer dans cette alliance-là. Quand je parle avec des gens qui ont une autre foi puis qui disent « Ah, dans le fond, on croit tous la même chose », bien, la question que je veux leur poser, c'est « Est-ce que tu es entré dans une alliance avec Dieu? » C'est quoi les termes de cette alliance-là? Parce qu'il y a une alliance parfaite, une alliance de grâce dans laquelle tu peux entrer avec Dieu. Puis tu vas avoir une assurance que tu n'es pas en train d'avancer en tâtons en disant « J'espère que Dieu est comme ça, puis je vais m'entendre avec lui de l'autre bord. » Non, il s'est révélé à nous. Il nous a révélé comment il voulait être aimé. Puis cette révélation-là est dans la personne de son Fils Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, sans ta parole, comment est-ce qu'on ferait pour te connaître? On avancerait à tâtons, on dirait « Le soleil est beau, sûrement que Dieu existe. Il y a des gens qui sont gentils. » Sûrement que Dieu existe. Mais Seigneur, nous t'avons connu parce que tu t'es fait connaître à travers ta parole et ta parole nous révèle la personne de Jésus-Christ. Tu es Jésus-Christ, la révélation parfaite de Dieu. Et Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons pour venir adorer notre Dieu. C'est en toi que nous rencontrons Dieu, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de réaliser combien on est privilégié d'avoir cette bonne nouvelle, Seigneur. Apprends-nous à venir nous reposer de nos œuvres dans ton œuvre à toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.